la remarque du père Dreyfus, c'est tout à fait juste. Je crois, j'insistais sur la mentalité, sur l'intention. La théologie de l'Église est vraie. Ça ne veut pas dire que tous les théologiens soient vrais. Mais dans la mesure où ils coopèrent à cette théologie, je crois qu'ils se mettent dans une attitude de recherche de vérité. Quand on se met dans cette attitude de recherche de vérité, on se soumet d'avance au jugement de l'Église. Et quand on se soumet d'avance au jugement de l'Église, on permet à l'Église de juger. Quand l'Église est en face de fils pas très docile, c'est comme quand des enfants grandissent, le père ne peut plus faire grand-chose. Tachébat. Quand les fils sont dociles et qui désirent chercher la vérité, l'Église peut parler. Il faudrait que tous les théologiens demandent à l'Église le jugement. Mais l'Église ne peut pas le faire. Mais il faut que dans l'intention on est comme ça. C'est ça que je veux dire. Alors par le fait même, l'Église laisse, et ça je l'ai vu, c'était même très beau. Il y a eu des histoires à Fribourg, des histoires assez graves, au point de vue doctrinal. L'Église a dit, c'est vous, entre théologiens, dans votre conseil de théologie, qui devez faire la remarque à votre confrère. L'Église considère que les enfants sont arrivés à un âge suffisamment adulte et suffisamment conscient qu'ils devraient, entre eux, se faire la correction fraternelle. Mais c'est très difficile. J'ai vu un moment, je ne dis pas ça pour me mettre en situation, mais j'étais seul en faculté de théologie de dire non, on ne peut pas dire ça. Et j'étais philosophe, oui, j'étais bien placé. Alors on m'a dit à ce moment-là, mais vous n'êtes pas théologien, Père Philippe. Alors j'ai dit, je suis croyant et je suis philosophe, donc je suis théologien. Et je peux, cher père, remarquer que votre philosophie n'est pas toujours très juste. Non, et c'est dur. C'était une correction fraternelle. Mais j'étais seul. J'ai écrit à ce moment-là au père général. Là, je suis seul. Faut-il maintenir ma position? Je peux me taire. Le père général m'a répondu en me disant maintenez. Et au fond, parce que c'est entre dominicains. Il faut très délicat de dire sa position. C'est pas si on est dans la vérité. Hein. Quand on en a 18 ans, il faut qu'il dise l'inverse. Il faut que les théologiens se battent pour la vérité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, mais c'est leur devoir. C'est leur devoir. Alors toujours en demandant à des confrères si on ne va pas trop loin. Moi je crois. Parce que quand on est dans un combat, vous savez, la passion des racines est très forte chez les intellectuels. Elle augmente. Et alors on ne voit plus toujours très bien. Alors il faut toujours avoir un frère auquel on peut tout demander. Dans cet ordre-là. Toujours. Je crois que ça c'est très très important. Certaines fois, j'ai vu le père veuillez m'envoyer des choses. En me disant, père, est-ce que je peux dire ça? Je le sais qu'au point de vue exégétique, mais je voudrais savoir au point de vue théologique si vous êtes d'accord. C'est un service à se rendre. Quand on sait qu'il y a une confiance totale entre eux. C'est là où c'est très important, ça. D'avoir entre des théologiens une très grande amitié. Où on peut tous dire. Avec le père Patford, je fais ça. Aussi. Patford connaissait saint Thomas d'une autre manière que moi. Il le connaît plus littéralement. Parce que lui enseigne la théologie, moi j'enseignais la philo. Alors quand on enseigne la philo, on a cette espèce de liberté hein, du philosophe. Heureusement, c'est le loup de la femme de la fontaine. Je ne dis pas que le théologien c'est le chien, mais il est forcément science subalternée. C'est une sagesse subalternée. Alors, Vous comprenez que si on a cette intention, on peut toujours dire des erreurs. Personne n'est infaillible, sauf le Saint-Père, en matière de foi. Mais le théologien qui fait quelque chose et qui s'y donne à fond, il risque toujours d'avoir un point de vue qui devient trop limité. Alors s'il considère qu'il est une partie de l'édifice de la théologie, de l'Église, il sera très docile au jugement de l'Église. Condition nécessaire, subjective, absolument nécessaire. On est serviteur, donc on accepte le jugement qui vient d'en haut. Et on ne réclame pas un jugement qui soit un jugement compétent. Ce n'est pas suffisant. Mais quand en faculté de théologie, les théologiens réclamaient que Rome ne dise plus jamais rien et que ce soit une commission de théologiens qui juge les théologiens. Des 10 hommes. Et c'est sous-jacent à des quantités de ça. Eh bien, je crois, c'est parce qu'on perd le sens de la théologie, science subalternée. Et on considère la théologie comme les mathématiques, comme une science. N'importe quelle. Alors à ce moment-là, c'est juste d'être jugé par ses pairs. Mais si on considère que qu'on est serviteur de l'Église, on accepte d'être jugé par un évêque, même s'il n'est pas très théologien. Un évêque en union avec Rome. Ça m'est arrivé, je vous dis ça à titre d'exemple, parce qu'il n'y a que les choses personnelles qu'on voit bien. D'avoir reçu une fois d'un évêque une affirmation que j'avais dite dans son diocèse, dans une conférence. Et cette conférence avait été éditée. Et alors, il me disait, une personne est venue me montrer ça, en me disant, Père, je ne comprends pas très bien. Je croyais que le Père Philippe était très sûr du doctrinal. Là, est-ce que c'est tout à fait juste? L'évêque a dit, je vous renvoie ça. C'était très bien de sa part. Je lui ai répondu, Monseigneur, je ne peux pas être jugé parti. J'envoie ma lettre à un très bon théologien de Rome. J'envoie votre lettre et le jugement à un très bon théologien. Je l'ai envoyé au Père Padefort. Et je lui expliquais un petit peu ce qu'il en était. Alors l'évêque m'a répondu en disant, qu'est-ce que vous faites d'envoyer ça à Rome? J'ai dit, écoutez, il s'agit de théologie, c'est Rome qui juge. Ces théologiens de Rome font partie de la commission. Le Père Padefort faisait partie de la commission de la défense de la foi. Et puis moi, je ne peux pas, je défendrai ma position. Je veux bien vous l'expliquer, mais ce n'est pas ça. On porte un jugement, mais je veux savoir si c'est vrai ou pas. Père Padefort, au bout de deux mois, m'a répondu, sans condamner, simplement disant, tout dépend comment on se place, si on se place d'un point de vue de théologie mystique ou d'un point de vue de théologie rigoureusement, si on suit le droit canon ou si on suit la théologie, c'est ça la distinction. Selon le droit canon, vous avez été un peu loin. Mais puisque vous faisiez une conférence spirituelle, je vous approuve entièrement. Alors j'ai envoyé la lettre. Pas eu de réponse. Et quand l'évêque était à Rome, il a vu le théologien en question. Il m'a répondu, ce théologien est merveilleux. Merci de m'avoir permis de le connaître. Alors c'était fait, c'était réglé. J'ai pas dû changer. Parce que j'avais dit, je suis prêt à changer si c'est pas. Si l'Église me dit que je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que c'est possible, c'est dans des conférences, on est emballé pour le sujet, puis on y va à fond. C'était la question des liens entre le chrétien, pour vous le dire, entre le chrétien et le pape, et le chrétien et l'évêque. Une question brûlante. C'est une question très brûlante. Est-ce que le chrétien est plus immédiatement lié au pape ou à son évêque? Parlez à un petit gosse qui a une foi très très nette, naïve, simple. Qu'est-ce que c'est que le pape pour lui? J'aime beaucoup son évêque, mais le pape, c'est le pape. C'est pas de la popolatrie. C'est un mot, c'est le pape. C'est curieux, la foi nous met un lien très particulier avec le Saint-Père. L'alliance avec le pape. Ça fait garder des grandes alliances. Alors il s'agit de respecter, pas respecter les évêques, il s'agit de les respecter. Mais qu'on ait un lien dans le cœur plus profond. Donc c'est l'aspect mystique de la foi, de l'espérance et de la charité avec le Saint-Père. Je crois que c'est indéniable. Alors c'était ça. Je dis canoniquement, on est plus fidèle à l'évêque. C'est sûr, immédiatement, je ne peux pas sauter au-dessus de l'évêque. Mais, spirituellement, dans ma vie intérieure, je dois prier plus pour le pape que pour mon évêque. Je suis lié effectivement avec lui. Il est le père de l'Église universelle. Et j'ai une plus grande joie quand je le vois, parce que c'est rare. Donc, vous voyez, le pluralisme théologique se ramène à l'unité de la théologie dans l'Église. Un pluralisme qui ne se ramène pas à l'unité, c'est très grave. Un pluralisme qui se ramène à l'unité, c'est accepter que tous on est des travailleurs pour la théologie. Et dans ce travail, il peut y avoir des luttes. Il y en aura nécessairement. Et le Saint-Père demande aux théologiens. C'est plus facile pour lui que les théologiens entre ses brouilles. Et ça ne vient au Saint-Père qu'en dernier lieu. Quand on ne peut plus rien. Quand les frères ne peuvent plus rien. Je lis ce papier tout à l'heure, cette question tout à l'heure. N'y aurait-il, juste avant, c'est la question de la vérité. Donc, n'y aurait-il pas, n'y aurait-il pourtant pas ici, un rapprochement à faire avec Heidegger lorsqu'il dit qu'il faut penser l'être pour que celui-ci s'impose à la pensée, pour que celui-ci soit dévoilé. L'être ne se dévoile que dans la pensée. C'est ça le point de vue de Heidegger. L'être en question étant extérieur à cette pensée, bien non. C'est là l'erreur. Là, vous réagissez en thomiste. L'être ne se dévoile que dans la pensée, que dans le cogito. Mais ça, c'est très très net. Hein. J'ai suffisamment travaillé à Heidegger, parce que ça m'intéresse. Heidegger est terriblement séduisant. Si je n'étais pas très très enraciné dans mon réalisme, je serais séduit par Heidegger. Je comprends très bien qu'on est séduit par Heidegger. Mais une fois qu'on est entré dans Heidegger, on ne peut plus en sortir. J'ai vu de jeunes étudiants à Fribourg, heideggeriens. Heidegger disait qu'il fallait l'angoisse pour entrer en métaphysique. Et ils étaient entrés dans l'angoisse. Et c'est en étant entrés dans l'angoisse qu'ils sont venus le trouver. Et c'était terriblement angoissé. Heureusement qu'il y avait un lien antérieur. Oui, Heidegger conduit à l'angoisse. Il ne fait pas en sortir. Je crois qu'une vraie philosophie doit faire sortir de l'angoisse pour vous mettre dans l'admiration. Quand vous êtes angoissé, vous n'admirez plus rien. Plus rien du tout. Et donc, votre intelligence est inhibée. Alors, l'être en question étant extérieur à sa pensée, bien non pas pour Heidegger, il y a l'immanence et l'ontologisme le plus absolu, bien qu'ayant besoin d'elle comme l'illustre, l'illustrant, illustrant bien les citations suivantes. Donc, comme bien, alors on va le lire. Le trait distinctif de l'homme, c'est qu'en sa qualité d'être pensant, il est ouvert à l'être. Oui, mais l'être ne s'ouvre que dans la pensée. Placé devant lui, oui, placé en lui, oui, devant lui. Regardez exactement là, l'allemand. Qu'il demeure rapporté à l'être et qu'ainsi, il lui correspond. Heidegger, identité, différence. Oui, oui, mais ces textes-là peuvent s'entendre aussi, vous voyez. Quelle est la relation exacte entre être et pensée chez Heidegger? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que l'être existe à des moments de la pensée? Non. C'est pas étonnant, puisque c'est l'être d'une forme abstraite. Il peut exister que non. Alors certains ont dit que c'était Dieu. Heidegger a dit non. Certains indiquent que c'était la négation de Heidegger a dit non. Donc, l'être permet l'attente. Oui, si cet être était extérieur, il pourrait y avoir une interrogation nouvelle par rapport à cet être extérieur. Mais cet être est immanent à la pensée. Dans la pensée qu'il dit ce qu'il est devant, il y a, puisqu'il dit être et pensée, et on ne peut pas l'interroger. Penser l'être, c'est toute la philosophie. Il n'y a plus d'analyse. C'est penser l'être. Et la plus grande question, c'est qu'est-ce que c'est que l'être? Dans la pensée, on ne peut pas répondre. Il n'y a aucune réponse à Heidegger. Il aurait voulu le faire. C'est cette fameuse question de ce second manuscrit, de l'être et le temps. Il n'a jamais répondu. Je crois que si on est attentif à l'ensemble de la pensée d'Heidegger, on peut dire ça. Si l'homme correspond à l'être, c'est bien parce qu'il lui est rapporté, et non le contraire. D'autre part, l'être n'est pas placé au-dedans de lui, mais devant lui. Bien. Il n'est pas au-dedans de l'homme, mais il est au-dedans de la pensée. Il est dans la pensée. Alors, je suis d'accord qu'il n'est pas le concept, puisque tout Heidegger refuse le concept d'être. Donc, il est devant. Mais il est dedans aussi. Mais je ne peux pas interroger cet être. Donc, s'il ne peut pas interroger cet être, c'est qu'il n'est pas devant moi, comme une réalité qui est en dehors de moi. Alors évidemment, le langage d'Heidegger n'est pas commode, je suis d'accord. Heidegger dit encore, c'est l'homme qui, ouvert à l'être, laisse d'abord celui-ci venir à lui, comme présence, tout à fait d'accord. Mais tout ça ne contredit pas. Contribution à la question de l'être, et le néant est l'être. Et encore, l'être attend toujours que l'homme se le remémore comme digne d'être pensé. Que l'homme se le remémore. Hein? Pouvez-vous vous remémorer le jugement d'existence? Non. Donc qu'il soit dans ma pensée pour pouvoir me remémorer. Impossible autrement. Qu'est-ce qui existe en dehors de moi? Ce sont les étangs. Et les étangs ne sont pas l'être. Il faut la négation de tous les étangs pour que l'être apparaisse à l'intérieur de la pensée. Pour penser l'être. C'est là la dialectique hegelienne. La dialectique chez Heidegger, c'est étant et non-être. D'où jaillit l'être. Il faut la négation de tous les étants pour que l'être apparaisse. Donc, l'être attend toujours que l'homme se le remémorant comme digne d'être pensé. L'homme est le héros de l'être. Bien qu'ayant confondu pensée et intelligence, d'une part, et théologie et philosophie, d'autre part, Heidegger n'aurait-il pas pourtant touché ou saisi quelque chose de vrai? Oui, il a saisi quelque chose de vrai. Il a eu l'immense avantage de mettre en lumière que la pensée est faite pour l'être. Mais comment? Et le comment, pour lui, fait partie de la saisie du Tiesti. Il n'y a pas de distinction chez Heidegger entre le comment et le pourquoi. Aucune. C'est toujours le comment. Et c'est pour ça qu'on peut le juger comme devant, et on peut le juger se remémorant. Tout en étant philosophe, et de ce fait, partant de l'expérience des propriétés pour remonter au principe, le chrétien ne peut-il pas être inspiré, guidé inconsciemment par cette même vérité qu'il recherche? De ce fait, l'autorité de la philosophie ne pourrait-elle pas avoir une valeur encore plus particulière? Je ne crois pas. Parce que la théologie part de la lumière divine. Or, en face de l'être qui n'est pas créé, mais qui est quand même à partir de la création. Je prends tout ce que la philosophie m'apporte de vérité. C'est énorme. C'est pas la vérité seulement. C'est tout ce que la philosophie m'apporte de vérité sur l'homme. Si je veux comprendre ce que c'est que la personne, au niveau personnalité chrétienne, je dois avoir pensé ce qu'est la personne au point de vue humain. Et donc, la philosophie apporte aux théologiens cette notion de pensée. Toutes les notions convertibles avec l'être, toutes les notions parfaites, analogiquement, peuvent être assumées par le philosophe, par la théologie. Je n'insiste pas plus, mais je voulais quand même, puisqu'on avait parlé de Heidegger tout à l'heure, et préciser, c'est du reste bien. C'est très difficile, Heidegger, il est complexe. Hein. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut développer certains aspects, mais il me semble, surtout quand je regarde la manière dont Heidegger découvre l'être, qu'il abandonne complètement le champ d'existence. Et qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, c'est pas l'abandonner, mais c'est une coupure. Entre l'étant et l'être, il n'y a aucune continuité. Si ce n'est la continuité dialectique d'opposition, qui n'est pas une continuité. Alors, nous entrons maintenant dans un sujet très vaste, très intéressant. La théologie dans ses différentes parties. Je vous dis le fruit de ma recherche. Donc je ne dis pas que c'est la vérité absolue. C'est une recherche. Je fais cette recherche en fonction de ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de théologie biblique. De théologie de l'Église. J'ai regardé le père Congard dans tout son effort de la théologie de l'Église. J'ai vu la théologie de l'Église du père Journet. Tout ça, c'est moderne, c'est actuel. On ne peut pas d'un seul trait rayer tout ça. C'est faux. Rayer tout ça. Ce sont des théologiens honnêtes. Alors dire que saint Thomas, comme le père Journet dit, saint Thomas a oublié dans sa théologie scientifique de parler de l'Église. Je trouve ça assez gros. Je ne crois pas que saint Thomas a oublié l'Église dans sa théologie scientifique. Mais saint Thomas, avec toute sa rigueur de théologien scientifique, voit qu'il ne peut pas dire plus de l'Église que le traité des sacrements, que le traité d'inspiration, que le mystère de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire plus. Donc, il faut pouvoir parler de l'Église en théologie. L'intuition du père Congar était juste. Ou je ne suis plus, alors c'est autre chose. Vous voyez, c'est à propos de l'analogie. C'est que, il me semble que là, il y a des universités terribles. Mais ça, c'est une critique interne philosophique, vous voyez, fraternelle. Je voyais tout le travail du père de Lubac, tout ce travail par rapport au père de l'Église. C'est quand même quelque chose, ça. Pas considérer ça comme rien. Ça apporte énormément. Alors, j'ai essayé de repenser ça comme j'ai essayé de repenser toute la philosophie réaliste qui m'a été donnée d'une manière très particulière par Aristote. Et saint Thomas, mais surtout Aristote. Maritain a aidé, Gilson a aidé, c'est sûr. J'ai d'abord regardé ces gens-là avant d'arriver. Je me suis mis, je ne dis pas que je me suis mis à l'école de Maritain, mais je l'ai lu, ça me passionnait. J'ai lu les degrés du tout Maritain, je crois que j'ai lu tout Maritain. Ce qui me passionnait surtout, c'était quand Maritain parlait de l'art. Vous voyez que là, il était particulièrement à l'aise. J'ai lu tout Gilson. Il faut lire tous ces gens-là. Ils sont nos contemporains. Et puis, il y a quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Puis je vous ai déjà dit, du point de vue philosophique, c'est quand je suis arrivé en théologie et que de fait, en interrogeant mon professeur de théologie, je ne dis pas son nom, professeur de dogme, première année de biologie. Après avoir vu la question des voies d'existence de Dieu, j'ai été le trouver. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Mais je ne comprends pas que saint Thomas ait pu écrire ça quand il a commenté, et qu'il commentait à peu près en parallèle, les analytiques d'Aristote, les secondes analytiques d'Aristote. C'est pas scientifique du tout. Or, il est en théologie scientifique. Alors le père, en question, a levé les bras au ciel. Je vous donne saint Thomas. Je dis, mais est-ce que vous l'avez compris? Alors, il a dit, si vous l'avez compris, vous pouvez me répondre. Si vous ne l'avez pas compris, très bien. Alors, il m'a dit, je ne peux pas vous répondre. Très humblement. C'était du reste quelqu'un de très humble. Et alors, à partir de là, je me suis dit, il n'y a qu'une seule manière de pouvoir comprendre ces cinq voies d'accès qui ont fait couler beaucoup d'encre dans un sens positif et dans un sens négatif. Donc, qui sont un monument dans la tradition. On ne peut pas nier. Il n'y a qu'une seule manière, c'est de reprendre toute la philosophie d'Aristote. On n'enseignait pas aujourd'hui. Je me suis mis à reprendre la philosophie d'Aristote pour comprendre les cinq voies. La théologie, c'est différent, parce que j'ai enseigné la théologie ascétique et mystique à Fribourg. Et à ce moment-là, j'ai écrit, ça je peux le dire, au cher père Paul Philippe, qui est devenu cardinal, qui a enseigné la théologie ascétique et mystique à l'angélique. J'ai dit, je dois enseigner ça, je sais que vous l'enseignez déjà depuis plusieurs années. Dites-moi la raison formelle de la théologie mystique. Réponse, je n'en sais rien. Parce que je dis, moi je ne peux pas enseigner si je ne fais pas la raison formelle. Voilà ce que je fais. Je fais des cours de spiritualité, et puis j'applique le traité de saint Thomas là. Le père Garrigou avait fait la théologie ascétique et mystique. Je l'ai lu. Et le père Garrigou l'a quand même dit, ouvertement, textuellement, on applique les conclusions théologiques de saint Thomas à la réalité chrétienne. Alors là, tu hurlais. Il n'y a rien de moins pratique que les conclusions de la théologie scientifique de saint Thomas. Ce qui est pratique, c'est la foi. Ce n'est pas les conclusions théologiques de la théologie. C'est pour ça que je dis, on ne prêche pas les conclusions de saint Thomas. Quoi. Sauf si on est Thomiste Alexé, je vais vous prêcher sur l'habitus quantitatif de la foi, de la grâce. Et je vous montrerai que cette conclusion de saint Thomas est merveilleuse, qu'elle résout tous les problèmes. Oui, le peuple, chut. Dans un cercle très restreint, on peut faire ça. On fait ça, ça nous apporte beaucoup, mais on ne peut pas le prêcher. C'est pas prédicable. Donc, réfléchis sur l'écriture. Puisque c'est quand même l'écriture, toujours, qu'elle soit vue sous des aspects différents. La parole de Dieu. Dans l'écriture. Et je me suis dit, que fait saint Thomas par rapport à cette parole de Dieu? Puisque ça existe. Et que j'ai une grande vénération pour ce que fait saint Thomas. La parole de Dieu est un enseignement. Donc c'est ce que saint Thomas enseigne. Il cherche l'intelligibilité. Et c'est pour ça qu'il aboutit à une théologie scientifique. Donner la plus grande intelligibilité possible à la parole de Dieu. Saint Thomas laisse tomber des quantités de choses. Quand je lis l'enseignement de saint Thomas, l'évangile de saint Jean, je vois cette affirmation si forte. Je suis le pain de vie, le pain véritable. Cherchez dans saint Thomas, dans la somme, rien. Je sais bien que ce n'est pas toute la théologie, c'est pour les commençants, mais c'est quand même une petite synthèse, ou une grande synthèse. Je suis la lumière, rien. Sur la sainteté de Dieu, très peu de choses. Alors quand même, de Dieu trois fois saint. Des quantités de choses comme ça. Rien. Donc je me suis dit, saint Thomas a élagué. Vous savez, quand on coupe les arbres, on est là, qui tombe dans des branches. Et les vieilles femmes viennent ramasser ça pour leur four. Alors j'ai vu la vieille femme, j'ai ramassé tout ça, tout ce que saint Thomas a élagué. Tout ce que saint Thomas a élagué. Puis j'ai dit quand même, pour le croyant, c'est riche. Ce chapitre 6 de saint Jean. C'est une telle splendeur, c'est tellement fort. Et on va laisser ça tomber ça. Alors je peux regarder évidemment dans le commentaire de saint Thomas, mais c'est un commentaire, c'est pas intégré dans le temps. Le commentaire n'est quand même pas la théologie. Alors je me suis posé la question, vous voyez, si au fond dans l'écriture, il n'y avait pas une très grande richesse, et du reste, on le dit tout le temps. Tous ceux qui ne sont pas très chauds pour saint Thomas ne cessent de le dire, ça fait partie des critiques sévères qu'on peut faire à la somme théologique de saint Thomas. Le professeur de dogme à l'Institut catholique de Paris, juste avant la guerre, disait, je comprends pas saint Thomas. C'est pas une théologie chrétienne. Si c'était une théologie chrétienne, il aurait commencé sa théologie par le Christ. On verra ça. Scientifique, l'intelligibilité. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Il y a une histoire. Il y a une préhistoire. Donc, il y a un devenir dans la révélation. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un devenir dans la révélation. Dieu ne parle pas de la même façon à Abraham et à Marie. Je ne peux pas laisser tomber ça, ce devenir de la révélation. Ça me semble absolument nécessaire. Alors, est-ce que c'est la théologie biblique qui devrait faire ça? Point d'interrogation. Il y a des livres de théologie biblique qui, au fond, essaient de voir ce développement. C'est très intéressant, mais ils le font par thème. Le thème de la paternité. Le thème de la femme. Dans la théologie, il y a l'histoire. Puis, cette histoire s'achève au Christ. La grande montée vers le Christ. Et à partir du Christ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Église. L'Église au sens strict n'est plus une histoire. Il y a bien l'histoire de l'Église. Mais c'est beaucoup plus. C'est le vivant. Ça, c'était l'intuition du Père Congar. De mon côté, en réfléchissant, j'avais dit, il faut le vivant, c'est le vivant, l'Église. Il y a une croissance. Je dis, c'est pas l'histoire, il y a une croissance. Dans le vivant, c'est l'immanence. Dans l'histoire, c'est pas l'immanence. Le peuple d'Israël est conduit par les prophètes. Autrement il resterait. Tandis que l'Église a la croissance. C'est très différent. Il y a la tradition. Je crois qu'il y a une théologie de l'Église. Comme disons, je crois qu'il y a une théologie propre de l'Église. Donc, théologie scientifique. Qu'est-ce qu'il y aurait encore en plus? Et puis il y a tout l'aspect, si vous voulez, théologie mystique. Et la théologie mystique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dans la parole de Dieu le don. Le Christ est donné. Le don, le modèle. C'est la théologie des personnes, de la personne, au sens très très fort. De la personne donnée, c'est une personne qui se donne. C'est personne qui modèle. Or, le don, c'est l'amour. La révélation est donnée par surabondance d'amour. Et la révélation conduit à l'amour. Il faut donc extraire, expliciter de la parole de Dieu et de l'Écriture toute cette dimension du don, toute cette dimension des modèles. Saint Paul ne cesse de parler, n'est-ce pas ? Il faut être uni au Christ. Et le Christ est modèle, il faut l'imiter. Et Saint Jean parle de demeurer. Il est sûr que quand je lis l'évangile de Saint Jean, je vois qu'il y a une dimension d'amour qu'il faut saisir, absolument. Pour elle-même, toute la révélation conduit à l'amour. La parole de Saint Thomas, verbum spirans amorem, cette parole si belle. Presque intraduisible. Pour Saint Thomas, le propre de la parole de Dieu, c'est de spirer l'amour. Toute parole de Dieu est liée au Verbe. Et toute parole divine doit spirer l'amour. Donc toute parole divine doit s'achever dans mon cœur, dans l'amour. Verbum spirans amorem. Bien, ça, la théologie scientifique ne le dit pas, ne le développe pas. La théologie de l'histoire, ne l'explicite pas. La tradition de l'Église, c'est, tout ça, c'est présent, l'amour est toujours présent, mais n'est pas explicité pour lui-même. Ne faut-il pas une théologie qui explicite l'amour pour lui-même ? Et cela est possible, parce que cet amour s'est donné à travers une personne, le Christ. Si le Christ n'était pas donné, j'aurais pas de théologie mystique. J'aurais une mystique pour chacun d'entre nous. Il n'y aurait pas de théologie mystique. Grâce au Christ, qui est modèle, c'est la causalité exemplaire liée à la causalité finale. Et quand la causalité exemplaire est vue à l'intérieur de la causalité finale, je peux, à ce moment-là, ordonner une théologie mystique. Alors, il me semble, vous voyez, qu'aujourd'hui, il y a déjà longtemps que je pense ça, c'est depuis que j'ai fait ce cours de théologie ascétique et mystique. Ça m'a obligé de repenser tout problème théologique. Et chaque année, je le repense pour voir si c'est juste. Je l'avais envoyé au Père Dondaine, Hyacinthe. En disant, croyez-vous que je peux publier un petit article là-dessus. Le Père Hyacinthe m'a dit, en répondant, il était merveilleux, le Père Hyacinthe Dondaine. Je vais vous donner un petit épisode, là encore. C'était le Père Gérard des Lauriers, qui en tant que matheux, et en tant que métamateux, et en tant que théologien des métamateux, alors, faisait quelque chose, quelquefois, de terriblement difficile à comprendre. Il faisait une petite session réservée aux professeurs. Les étudiants pouvaient venir, mais c'était réservé aux professeurs de théologie et de philosophie. Alors, on était une quinzaine. Et le sujet, c'était de la motion de la grâce dans les sacrements. Qu'est-ce que c'est que cette motion ? Là, je me rappelle, Père Dondaine était derrière moi, au bout du quatrième cours. Le Père Dondaine tout dit, ah, je comprends la question posée. Le Père Dondaine, selon le langage du seul joueur, dit, ah, c'est vraiment une théologie post-tridentine. La théologie post-tridentine. C'est-à-dire une théologie très très scolastique. Mais qui ne se partait pas de l'écriture, évidemment, partait d'un problème Il voulait fouiller ça le mieux possible. Le père Gérard Delaurier, c'est toujours un peu une théologie des possibles, vous voyez. Le grand cardinal de Lille, une théologie des possibles. Et c'est dit la théologie des possibles. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est possible? Creusez ça plutôt que de partir du fait. Mais on avait la théologie de la grâce. Tout ce que la grâce peut faire. Et la grâce fait quelque chose à travers les sacrements. Mais c'était tout ce que la grâce peut faire. Et c'était, vous voyez, ce que Occam a mis très en valeur, la théologie des potentia absoluta. Si je regarde la toute-puissance de Dieu, tout ce qu'on peut faire. Alors, vous voyez qu'ici, je réfléchis sur ces quatre dimensions. Un, deux, 3, 4. Et je crois que le mystère de la révélation qui m'est donné à travers un peuple, je ne peux pas nier ça, qui m'est donné pleinement dans le Christ, qui continue à travers l'Église. Ça fait donc tout de suite 3. Et à travers l'Église, ce mystère est donné pour être vécu de la manière la plus intime qui soit, et la plus personnelle, et la dimension communautaire. Il faut donc étudier ces quatre dimensions de la révélation. Et les étudier, je dirais, selon leur développement propre. La théologie scientifique de saint Thomas lui-même le reconnaît. La théologie scientifique de saint Thomas n'est pas la théologie. Elle est l'axe des diverses parties de la philosophie.